Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié chez Erré en 2012, La société inclusive, par An, de Charles Gardou, est un essai bref consacré au handicap, à la vulnérabilité humaine et aux conditions collectives de la participation sociale. Anthropologue et universitaire, Gardou ne traite pas le handicap comme une question sectorielle réservée aux institutions spécialisées. Il en fait un révélateur des mécanismes qui hiérarchisent les existences, distribue inégalement les ressources et assigne certaines personnes aux marges. Son propos prend la forme de 5 principes directeurs, appelés arcs-boutants, qui dessinent une conception exigeante de la société inclusive. Celle-ci ne consiste pas à intégrer après coup des individus réputés différents dans un cadre inchangé. Elle exige que les biens communs, les espaces, les savoirs et les possibilités de contribution soient pensés pour tous. Nourri de références philosophiques, littéraires et sociales, le livre associe plaidoyer éthique et interrogation anthropologique. Il cherche moins à proposer un programme technique qu'à déplacer le regard porté sur la norme, la dépendance et la valeur accordée aux vies humaines. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une société inclusive ne fonctionne ni comme un club ni comme une faveur. Le point de départ de Charles Gardou est une critique de la société conçue comme un espace dont les membres les plus conformes seraient les propriétaires légitimes. Dans cette représentation, les personnes fragilisées ne recevraient des droits ou des aides que par concession des personnes déjà installées au centre. Gardou récuse ce rapport entre donateurs supposés normaux et bénéficiaires supposés dépendants. Les ressources éducatives, culturelles, professionnelles, territoriales et relationnelles relèvent selon lui d'un héritage social commun. Personne ne peut donc prétendre autoriser ou refuser l'accès à ce qui appartient à tous. Cette thèse donne à l'inclusion une portée politique précise. Il ne suffit pas de multiplier les dispositifs destinés à une population identifiée si ces dispositifs maintiennent une frontière entre ceux qui appartiennent pleinement à la communauté et ceux qui doivent sans cesse prouver leur légitimité. La question centrale devient celle du partage effectif des conditions de la vie commune. Gardou oppose ainsi les passerelles entre territoires au cloisonnement qui produisent des marges durables. Son analyse vise autant les inégalités matérielles que les positions symboliques. Quand une personne est seulement objet de prise en charge, elle risque de demeurer extérieure aux décisions, aux échanges et aux formes de reconnaissance qui constituent une citoyenneté réelle. La société inclusive doit donc supprimer la logique de permission et substituer un principe de copropriété sociale. Deuxièmement, la diversité humaine conteste le pouvoir social de la norme unique. Gardou met en cause la croyance selon laquelle il existerait une norme stable à partir de laquelle les autres vies devraient être mesurées. La normalité est présentée comme une construction culturelle et historique, souvent transformée en critère de classement. Elle produit des oppositions entre autonomie et dépendance, capacité et incapacité, conformité et écart. Or, pour l'auteur, aucune existence ne peut être réduite à une déficience ni comparée sur une échelle unique de valeur. Les personnes en situation de handicap ne forment pas une humanité séparée. Elles manifestent, de manière parfois plus visible, la fragilité, la singularité et l'interdépendance qui traversent toute condition humaine. Cette perspective évite deux écueils. Elle refuse d'abord la stigmatisation qui enferme une personne dans une identité déficitaire. Elle évite aussi une valorisation abstraite de la différence qui oublierait les obstacles concrets rencontrés dans la vie quotidienne. Reconnaître la diversité implique de transformer les environnements qui rendent certaines variations humaines pénalisantes. Les difficultés ne viennent pas seulement d'un état corporel, sensoriel ou psychique, mais aussi de normes architecturales, administratives, scolaire et professionnel insuffisamment adaptable. Le livre défend donc une intelligence collective de la vulnérabilité. Celle-ci demande de considérer les aménagements et les formes de suppléance non comme des privilèges, mais comme des moyens ordinaires de garantir la participation. La critique de la norme vise finalement à réduire les rapports de domination produits par le devoir de conformité. Troisièmement, passer de l'intégration à l'inclusion transforme la responsabilité collective. Le livre distingue nettement intégration et inclusion. L'intégration désigne le rapprochement d'éléments différents afin de rendre possible leur compatibilité avec un ensemble. Cette démarche peut produire des avancées concrètes, mais elle risque de laisser intact le cadre qui définit au préalable les conditions normales de participation. L'individu différent doit alors s'adapter, compenser ou démontrer sa capacité à entrer dans les institutions existantes. L'inclusion inverse, la perspective, la société porte la responsabilité de devenir accessible et hospitalière à la pluralité des formes de vie. Cette différence n'est pas seulement terminologique, elle modifie la manière de penser l'école, le travail, les soins, la culture, les transports ou les services publics. Une politique inclusive ne se limite pas à prévoir une place exceptionnelle pour certaines personnes. elle cherche à organiser les dispositifs communs afin que chacun puisse les utiliser, y prendre part et y faire valoir ses choix. Gardou insiste ainsi sur la nécessité des accommodements, des soutiens et de modalités de suppléance qui permettent une contribution sociale effective. Le but n'est pas une uniformité des parcours, mais une trajectoire ouverte, sans orientation imposée par avance vers des espaces séparés. Cette conception refuse que les institutions spécialisées deviennent des lieux de relégation automatique. Elle ne nie pas la nécessité de compétences ou d'aides particulières, mais demande qu'elles servent le pouvoir d'agir et les projets des personnes. L'inclusion devient alors un critère d'évaluation des structures collectives, leur qualité se mesure à leur capacité à ne pas fabriquer elles-mêmes de l'empêchement. Quatrièmement, le droit d'exister dépasse la seule survie ou présence dans la société. Une des formules centrales de Gardou affirme que vivre sans exister constitue la forme la plus cruelle de l'exclusion. Elle permet de distinguer la simple présence physique dans la société d'une participation reconnue. Une personne peut être logée, soignée ou scolarisée tout en restant privée de parole, de liens choisis, de projets et de possibilités de contribution. Le livre invite ainsi à examiner les formes discrètes de mise à distance, décision prise à la place des premiers concernés, orientation vers des lieux fermés. Présomption d'incompétence, refus de soins ou limitation des accès aux activités ordinaires. Exister signifie être reconnu comme sujet, avec des désirs, une histoire, un langage et une puissance d'agir qui ne se confondent pas avec la performance attendue. Cette idée donne une profondeur philosophique à la question du handicap. Gardou ne demande pas uniquement une compensation des difficultés. Il demande que chaque personne puisse être considérée comme une présence irremplaçable dans le monde commun. La reconnaissance ne relève donc pas de la compassion. Elle suppose une place réelle dans les échanges sociaux et la possibilité d'influencer son propre parcours. Cette approche explique le refus de toute hiérarchie entre vie minuscule et vie majuscule. Juger une existence selon son rendement, son indépendance ou sa conformité revient à nier sa valeur intrinsèque. En rappelant la vulnérabilité universelle, l'ouvrage conteste les représentations qui opposent des individus autonomes à des personnes durablement dépendantes. Il souligne au contraire que toute autonomie se construit au sein de relations, de soutien et d'environnement partagé. En dernier lieu, équité, liberté et accessibilité forment les conditions d'une participation réelle. Le dernier axe du livre lie l'inclusion à l'équité et à la liberté. Gardou ne confond pas égalité formelle et justice concrète. Traiter chacun de manière identique peut maintenir les inégalités lorsque les obstacles, les besoins et les ressources disponibles diffèrent fortement. L'équité consiste à agir de façon ajustée, afin de compenser les désavantages produits par une situation ou par l'organisation sociale. Elle rend possible un accès réel aux ressources communes, plutôt qu'un droit seulement proclamé. Cette exigence implique une accessibilité entendue dans un sens large. Elle concerne les lieux, les transports et les outils, mais aussi l'information, la communication, les apprentissages, les procédures administratives et les relations professionnelles. Un espace est insuffisamment inclusif non seulement lorsqu'il est matériellement inaccessible, mais aussi lorsqu'il impose des codes ou des rythmes qui excluent certains participants. Les adaptations ne sont pas des correctifs périphériques, elles traduisent une conception de la communauté où la diversité est prise en compte dès la conception des dispositifs. Gardou associe cette équité à la liberté de construire une trajectoire ouverte. Il ne s'agit pas de prescrire une réussite unique, ni de réduire la personne à une orientation préparée par d'autres. La liberté suppose des choix effectifs, donc des soutiens accessibles, et une protection contre les mécanismes de déclassement. Le propos demeure volontairement normatif et général, davantage centré sur les principes que sur les instruments de mise en œuvre. Cette dimension constitue à la fois sa force mobilisatrice et sa limite pratique. Le lecteur doit prolonger lui-même ses principes dans les politiques et les institutions. En conclusion, la société inclusive, parlons en, s'adresse en premier lieu aux professionnels du handicap, de l'éducation, du travail social, du soin et de l'action publique. Ainsi qu'aux étudiants qui cherchent un cadre de réflexion accessible sur ces questions. Il peut également intéresser les proches de personnes en situation de handicap et tout lecteur préoccupé par les inégalités de participation dans la vie collective. Son bénéfice principal est de déplacer le problème au lieu de demander comment adapter des personnes différentes à un ordre social réputé normal. Gardou demande comment transformer cet ordre afin qu'il cesse de produire de l'exclusion. Le livre se distingue des manuels techniques ou juridiques par son registre anthropologique et éthique. Il ne détaille pas des procédures administratives ni un catalogue de politiques publiques. Il propose plutôt 5 repères pour évaluer les pratiques partage du patrimoine social. Refus de la norme exclusive égale dignité des existences, droit d'exister et exigence d'équité. Cette architecture concise, soutenue par de nombreuses références intellectuelles, donne à l'ouvrage une portée plus large que la seule question du handicap. Sa force réside dans la cohérence entre une critique des institutions qui isolent et une affirmation de l'interdépendance humaine. Certaines lectures peuvent juger son horizon inclusif plus déclif que programmatique. Mais cette réserve précise aussi son usage, il fournit une boussole pour interroger les dispositifs existants, leurs barrières et leurs effets de relégation. Par sa langue dense et son refus de réduire les personnes à leurs limitations, il demeure une introduction singulière à une pensée exigeante de l'inclusion. Si vous souhaitez soutenir Charles Gardou, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.